Dans le petit B, on allait aborder le petit B qui doit s'appeler. Alors, il faut que je retrouve. Donc, voilà, chapitre 1er, section 1, paragraphe 1, paragraphe 2, grand B, petit B, c'était prédication et poésie. Voilà. Il me semble qu'on était là. Bon, comment c'est ça? Et alors? Alors, le premier texte qu'on a, c'est la deuxième lettre de Saint Clément. Qui est, alors justement, qui n'est pas de Saint Clément. Elle a été attribuée à Saint Clément. Et en fait, c'est la plus ancienne. La dernière fois, avec la Didache, je vous parlais du plus ancien texte que nous possédons dans le christianisme, et là, eh bien, nous avons la plus ancienne prédication chrétienne avec cette deuxième lettre de Saint Pierre, la deuxième lettre de Saint Clément. Alors déjà, il faut dire que son authenticité avait été mise en doute. Par Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique, qui est quand même l'une de nos sources les majeures en histoire, et aussi par Saint Jérôme. Donc vous voyez quand même deux personnages de poids qui doutaient qu'elle fût de Saint Clément. Et en fait, on pense que c'est une homélie syrienne qui daterait environ de l'an 120. De retrouver l'introduction. Alors, elle comporte une vingtaine de sections. Alors, les sections, c'est des petites sections, hein, toujours. Et trois parties principales. Donc, une première partie qui est une description assez grandiose. Du salut apporté par le Christ qui nous arrache à la misère. C'est les quatre premiers chapitres. Alors quand je vous dis chapitre, hein, vous savez, c'est toujours au sens de l'écriture des écritures anciennes, c'est-à-dire des choses de quelques lignes. Hein, voilà. Donc si vous lisez, vous irez pas très, ça vous prendra pas beaucoup de temps. Et puis, ensuite, il y a une deuxième partie qui est une exhortation à lutter contre le monde dont les valeurs ne sont pas celles du royaume de Dieu. Et enfin, troisième partie, un catalogue des vertus nécessaires pour être chrétien. Donc le repentir, l'affection mutuelle, l'obéissance, la paix, édifier autrui, la solidarité, la charité, disons, et la foi. Voilà. Puis une conclusion qui a un appel à la conversion, à la justice et à l'attente confiante de Dieu qui vient. Alors, comme dit l'éditeur du texte dans cette édition, il dit on a proposé Rome, Corinthe, la Syrie ou encore l'Égypte, sans pouvoir apporter d'arguments décisifs. On sait que c'est dans la première moitié du IIe siècle, vous voyez. Alors, la forme, dit l'éditeur, nous interdit d'y voir une lettre contrairement à ce qu'indique le titre unanimement transmis. Il s'agit en réalité d'un discours parénétique, vous voyez, donc une sorte de catéchèse, un peu comme on fait chez les néo-catéchuménons, qui semble être la première homélie chrétienne conservée. Sans être un commentaire suivi de l'écriture, le texte s'appuie largement sur des citations de l'Ancien Testament, dans la mesure où, en fait, le Nouveau, il venait tout juste d'être écrit, il n'était pas encore répandu partout, qui joue un rôle central dans la structuration de son propos. Voilà. Donc l'œuvre s'adresse clairement à des fidèles déjà intégrés à l'Église et non à des gens qu'il s'agirait d'appeler à, disons, à la conversion extérieure. Voilà. L'objectif principal est d'exhorter à un comportement éthique cohérent en conformité avec les commandements du Seigneur sans conduire à un déni du corps ou de la vie terrestre. Ce qui est assez... parce que c'est juste l'époque où justement on a tous les écrits gnostiques qui vont contre cela. Voilà. Alors le début, par exemple, juste un peu, je vous cite le début. Mes frères, vous voyez, ça commence comme ça. Il nous faut penser de Jésus-Christ comme de Dieu, comme du juge des vivants et des morts. Et il ne faut pas que nous fassions peu de cas de notre salut. Car lorsque nous faisons peu de cas de lui, nous espérons aussi obtenir peu. Et nous qui écoutons comme si c'était peu de choses, sommes en faute, parce que nous ne savons pas d'où nous avons été appelés, par qui et vers quel lieu, et tout ce que Jésus-Christ a souffert pour nous. Alors donc, vous voyez, c'est vraiment une exhortation pour, comme finalement les homélies du grand siècle. Hein. C'est assez... Hein. Alors après... il nous dit qu'il faut agir en chrétien, donc se détacher du monde, et puis des conseils pour appliquer les commandements, et puis attendre le royaume, parce que vous vous souvenez qu'à cette époque, on attendait qu'il arrive assez vite. Bon. Donc, si vous avez ce petit livre, vous pouvez lire cette... Alors, en fait, vous l'avez sur Internet en accès direct aussi, hein, comme c'est pratique aussi. dans des traductions un peu anciennes du 19e, bon, tout à fait correct. Donc, la deuxième lettre de Clément, première prédication chrétienne, donc vous voyez, une sorte d'exhortation à la vie chrétienne. Alors, on a aussi, comme autre... texte de cette période, ce qu'on a appelé les odes de Salomon. C'est-à-dire, les odes, ce sont des poèmes en prose. 42, qui ont été retrouvés en 1900 et qui seraient là aussi d'origine syrienne. Alors, qu'est-ce que c'est que ces poèmes ? Eh bien, ce sont en fait des chants liturgiques qui reprennent le style des psaumes de l'Ancien Testament. Vous voyez, un peu comme quand vous regardez les hymnes dans le bréviaire, ce sont des chants, en fait, hein, des poèmes, qui, par certains aspects, ressemblent un peu aussi aux psaumes. Alors, voilà, alors il y a des... Certains de ces poèmes sont plutôt doctrinaux, hein, donc c'est... une manière de faire passer le dogme. Il y a des chants liturgiques communautaires, d'autres qui sont plutôt individuels, des prières. En fait, vous voyez, c'est un ensemble de poésie chrétienne. Alors, il se trouve que souvent... Là, on pense que c'est d'origine syrienne parce que dans le monde, disons, impérial, aussi bien occidental qu'oriental, souvent les hymnes ou les poèmes de ce genre avaient été utilisés par les hérétiques pour faire passer leur doctrine. Et la réaction, ça avait été, on détruit tout ce qui a été composé pour la liturgie, parce qu'on n'est pas sûr de l'orthodoxie et on en revient finalement à l'écriture sainte. Et du coup, on chantera quoi? Bon, on chantera des bouts de psaume. Vous voyez pourquoi dans notre messe, on a les antiennes, en fait, ce sont des bouts de psaume. En fait, c'est que de la parole de Dieu. Parce que là, au moins, on est sûr, même bon, si on comprend de travers la parole de Dieu, c'est quand même la parole de Dieu. Tandis que ce n'est pas des hymnes ou des odes. Oui, voilà. Par exemple, les séquences ne sont pas... sont pas de la parole de Dieu, mais elles sont souvent construites à partir de... là, ces hymnes, c'était un peu la même chose, mais parfois, on leur faisait dire des choses qui étaient hérétiques. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on les a supprimées à une certaine période.
Comme des chants des messes diocésaines, des fois.
Oui, c'est ça. Et donc, du coup, certains chants ont été supprimés. Et puis, la tradition latine a retrouvé, un peu péniblement, tardivement, cette veine poétique à travers, d'une part, les hymnes du bréviaire, mais les hymnes du bréviaire étaient chantés en général par le clergé, et puis les séquences qui se sont multipliées au Moyen-Âge dans les messes, au point qu'elles ont été régulièrement supprimées, parce qu'il y en avait trop. Alors les séquences, vous avez le Dies Irae à la messe des morts, enfin vous avez le Stabat Mater, bon, etc., etc. Alors par contre, en Orient, ça a refleuri davantage. Et il y a énormément d'odes comme ça qui sont chantées dans la liturgie. Parce que en Orient, finalement, la messe est chantée en même temps que sont chantées en même temps. C'est-à-dire les offices, hein, les vêpres, les laudes. Enfin, tout se chante à l'église, même si les gens ils font pas trop attention. Mais il y a un chœur qui chante, et puis à un moment, il y a la messe qui arrive, bon, etc. Et tout ça est farci, hein, de poèmes liturgiques. Voilà. Donc, dans les odes de Salomon, vous avez comme ça... donc, c'est évidemment pas Salomon qui les a composées. Hein, donc, ce sont des poésies chrétiennes qui s'inspirent un peu de l'esprit du psautier, hein, et qui ont été retrouvées, figurez-vous, qu'en 1900. Là encore, vous voyez, la Didache, on l'a retrouvée assez récemment. L'épître à Diognète, on verra dans l'apologétique, c'est encore un texte qu'on a retrouvé récemment. Enfin, récemment, il y a un siècle ou deux siècles, un siècle et demi. Et là, c'est encore un texte qu'on a retrouvé assez récemment. Alors voilà, donc pour ces deux prédications et poésies. Alors, on va passer à la deuxième section maintenant, les pères apologètes. Alors, on franchit un petit pas historique, puisque ça se situe à peu près dans le siècle qui suit, ou dans le demi-siècle qui suit, la littérature subapostolique. Alors, le christianisme apparaît dans un monde qui se pique de culture, le monde romain, et il est aussitôt considéré comme une superstition stupide. Songez par exemple au discours de saint Paul à l'Aréopage. Il commence bien, hein, c'est vraiment le modèle de toute l'ouverture au monde possible et inimaginable qu'on aurait pu trouver au Concile. Hein. Vous, Athéniens, vous êtes les plus pieux d'entre les hommes, vous avez même un autel au Dieu inconnu, etc. Et puis alors, saint Paul dit à un moment, quand même ce Dieu que vous cherchez sans le connaître, eh bien moi je vais vous l'annoncer, c'est Jésus-Christ, qui est né, qui est mort et qui est ressuscité. Sur la résurrection, nous t'entendrons une autre fois, hein, parce que vraiment tous les Grecs qui pensaient qu'à une chose, c'est fuir le corps, donc ils se retrouvaient avec un retour au corps, ça les intéressait pas beaucoup. Et puis alors en plus, ça faisait un peu trop populaire comme espérance, hein, de vouloir continuer à vivre. C'est juste pour les plébéiens qui n'ont pas encore goûté aux joies spirituelles et qui ne sont pas encore quasiment dans la vision du beau et du bien. Alors, donc les chrétiens passent pour des imbéciles, vous voyez. Alors, ça encore, ça serait gentil s'ils étaient que des imbéciles. Mais ils passent aussi pour des vicieux, pour des criminels, pour des incestueux, pour des assassins d'enfants, évidemment. Et en plus, ils vont perdre la protection que leur octroyait le judaïsme, parce que les juifs ont eu, ils ont la nuque raide, hein, donc ils ont tellement résisté sur le plan religieux que les Romains, assez pragmatiques, les ont exonérés de pas mal de servitudes de la religion impériale. Donc ils avaient un statut qui leur permettait de vivre leur religion dans le cadre très général de l'Empire. Et les premiers chrétiens qui n'étaient pas distingués des juifs, eh bien, ont profité pendant les premières décennies de ce statut. Ce qui fait que Saint Paul, quand vous lisez les lettres de Saint Paul ou de Saint Pierre, vous avez une très grande loyauté vis-à-vis des autorités romaines, dans la mesure où les Romains de l'époque ne persécutent pas les chrétiens, puisque de toute manière, ils ne persécutent pas les juifs, enfin, sauf quand ils se révoltent. Et là, donc, on a véritablement une situation plutôt calme. C'est que lorsque les juifs vont exclure les chrétiens de leur culte, de leur communauté, que les chrétiens vont se retrouver sans parapluie, sans protection, et là, n'ayant pas une religion déterminée reconnue par les autorités religieuses de l'Empire, ne voulant pas sacrifier à la religion officielle de l'Empire, eh bien, ils vont se retrouver comme des athées, c'est-à-dire des gens qui refusent la religion, les religions qui sont censées soutenir l'Empire. Parce que globalement, les Romains se fichent totalement de ce que l'on croit, ce que l'on pense intimement. La seule chose qui les intéresse, c'est l'acte extérieur de culte. Et si on ne le pose pas, ça relève de la haute trahison. Voilà. Alors, donc la réaction naturelle des chrétiens cultivés, et on en rencontre déjà dès la fin du 1er siècle, y compris dans la famille impériale, dans l'entourage de Domitien, eh bien, c'est de vouloir montrer qu'ils ont raison de devenir chrétiens. Que le christianisme tient la route au regard de la raison. Et malgré les persécutions qui vont commencer sous les dynasties des Flaviens et des Antonins, qui sont des bons empereurs, hein, eh bien, ces chrétiens cultivés ne veulent y voir que la conséquence de malentendus à dissiper. Vous voyez, c'est un peu comme dans la logique du concile. Alors, dissipons les malentendus et on s'apercevra qu'on est tous d'accord. En fait, ça ne marchera pas vraiment. Donc, ils vont composer ce qu'on appelle une apologia, c'est-à-dire un discours de défense. Et il va y avoir des apologètes grecs, d'autres latins. Et puis on verra que comme l'apologie ne marche pas très bien, ça va se traduire par la meilleure des apologies, ça va être finalement le martyr, hein, qui va, comme le dira Tertullien, devenir une semence de chrétiens. Alors commençons. Alors peut-être on peut.